Radio Vatican, France et Afrique. Amis auditeurs, bienvenue à l'écoute de ce programme. Le Saint-Père invite les jeunes à considérer le mariage comme une vocation. C'était lors de l'audience qu'il a accordée samedi 4 mai à une dizaine de couples responsables internationaux des équipes Notre-Dame. Les détails dans quelques instants dans la rubrique consacrée à la semaine du pape. L'actualité politique et sociale sur le continent africain nous conduira au Burkina Faso, au Kenya et au Sénégal. La deuxième partie de ce programme est dédiée à l'invité du jour sur le contexte du déroulement des campagnes pour les élections au Tchad.
Radio Vatican, France et Afrique, Marie-Josée Moindo.
Bienvenue encore une fois à l'écoute de ce programme que nous commençons avec la semaine du pape présentée par Christian Lusambi.
Le Saint-Père a eu une semaine intense, marquée par plusieurs audiences survenues après sa visite pastorale à Venise dimanche 28 avril. Le pape a rencontré dans la matinée du samedi les responsables internationaux du mouvement Équipe Notre-Dame, dont le charisme se concrétise dans l'accompagnement des couples et des familles. Dans un contexte social de crise du mariage, François leur a recommandé la proximité avec les jeunes mariés et la co-responsabilité avec les prêtres dans les paroisses pour construire des communautés où le Christ puissent habiter dans les foyers et les relations familiales. François a également reçu en audience samedi un groupe de fidèles de la capitale néerlandaise à l'occasion de son 750e anniversaire. Dans son discours, le pape leur a rappelé que les origines et le développement de cette ville sont également liés à la foi et à l'Église catholique, soulignant en outre que Amsterdam est une ville où de nombreuses personnes travaillent pour les pauvres. Le Saint-Père a exhorté les pèlerins néerlandais à témoigner avec joie de la foi et de l'amour concret pour leur prochain, animés et soutenus par l'Eucharistie. Enfin, le pape a rencontré au Vatican samedi les participants à la conférence « Réparer l'irréparable » à l'occasion des 350 ans des apparitions du Christ à Sainte Marguerite Marie à Paray-le-Monial. Expliquant que la réparation intégrale semble parfois impossible, le pape a souligné que l'intention de réparer et de les faire concrètement est essentielle au processus de réconciliation et au retour de la paix dans le cœur. La réparation, pour être chrétienne, a-t-il précisé, suppose deux attitudes exigeantes, à savoir se reconnaître coupable et demander pardon. S'adressant ainsi aux participants à cette conférence, le pape a souhaité que ces travaux renouvellent et approfondissent le sens de cette belle pratique de réparation au Sacré-Cœur de Jésus et contribue également à renforcer la place qui lui revient dans le parcours pénitentiel de chaque baptisé et de l'Église. Au titre de nomination, le Saint-Père a nommé vendredi évêque du diocèse d'Ayara au Nigeria, Mgr Siméon Okezo Nwobi, qui était jusqu'à présent évêque titulaire de Rosngounié et auxiliaire de l'administrateur apostolique du poste vacant d'Ayara. Et en début de semaine, le pape a nommé évêque du diocèse de Maintirano à Madagascar, le père Clément Erizo Rakotoa Simbola, missionnaire de Notre-Dame de la Salette. Avant cette nomination, il était curé du district d'Antsalova et vicaire délégué de l'administrateur apostolique de Maintirano. Mercredi dernier, François avait préparé les fidèles aux vertus théologales, les présentant comme un don de l'Esprit-Saint. L'Église catholique reconnaît trois vertus théologales, à savoir la foi, l'espérance et la charité. C'est sur la foi, en effet, que le Saint-Père s'est attardé mercredi 1er mai au cours de l'audience générale. Pour ce mois de mai 2024, le pape François invite à prier pour que les religieuses, les religieux et les séminaristes grandissent dans leur parcours vocationnel grâce à une formation humaine, pastorale, spirituelle et communautaire qui les conduise à être des témoins crédibles de l'Évangile. Et au cours du même mois, le Saint-Père effectuera une visite pastorale à Vérone. Ce sera le samedi 18 mai 2024.
Restons dans l'actualité au Vatican avec une nomination au Kenya. Le Saint-Père a nommé évêque coadjuteur d'Isiolo le père Peter Munguti Makau, qui était jusqu'à présent supérieur provincial des missionnaires de la Consolata au Kenya et en Ouganda. L'actualité de l'Église nous conduit en Côte d'Ivoire. Le clergé de ce pays a rendu un vibrant hommage mercredi 1er mai à son premier prêtre, Mgr René Kouassi, de vénérée mémoire, à l'occasion de ses 90 ans d'ordination à Abli, son village natal. Marcel Aristomblé nous fait part de l'homélie de Mgr Marcelin Yao Kwadio, évêque de Daloa et président de la conférence épiscopale qui a présidé l'Eucharistie.
Il est pour le clergé ivoirien un repère, un modèle. Oui, il a toutes les aptitudes requises, notamment sa fécondité spirituelle, sa transmission responsable de la vie sacerdotale et sa vie vertueuse.
Pour Mgr Kwadio, ces qualités citées doivent être pour les prêtres ivoiriens un héritage spirituel à préserver et à perpétuer. Dans les pas de ce grand homme et de Dieu, il les a ainsi invités à plus d'engagement et à plus de responsabilité, à plus de fidélité à leurs promesses sacerdotales. Marcel Aristomblé, Abidjan, Côte d'Ivoire, pour Radio Vatican.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Des pluies torrentielles et des vents violents ont touché samedi les régions côtières du Kenya et de la Tanzanie, premiers effets d'un cyclone qui risque d'aggraver le chaos dans ces deux pays déjà frappés par des inondations meurtrières. Environ 400 personnes sont mortes en Afrique de l'Est depuis mars et des dizaines de milliers ont été déplacées par les pluies torrentielles qui ont entraîné inondations et glissements de terrain, emporté des maisons et détruit routes et ponts. Le département météorologique kényan a indiqué dans un bulletin publié samedi que les effets du cyclone tropical Idaya sont déjà ressentis au large, avec des vents dépassant les 75 km/h et des vagues de plus de 2 mètres. Au Burkina Faso, des centaines de manifestants se sont rassemblés vendredi devant l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Ouagadougou pour protester contre la réaction de Washington après des allégations de Human Rights Watch accusant l'armée burkinabée d'exaction de civils. Des manifestants, majoritairement des commerçants et travailleurs du secteur privé, ont scandé des slogans anti-impérialistes et protesté contre l'ingérence dans les affaires internes du Burkina devant l'ambassade protégée par un cordon sécuritaire de la police anti-émeute. Le Fonds monétaire international a abaissé sa prévision de croissance 2024 au Sénégal à 7,1% en raison de l'incertitude liée à la présidentielle de mars et d'un retard dans la production de gaz, selon une annonce publiée vendredi à l'issue d'une mission à Dakar. La croissance économique pour 2024 est maintenant projetée à 7,1% contre 8,3% auparavant, reflétant une activité économique impactée au premier trimestre par le contexte électoral et un démarrage retardé de la production de gaz jusqu'en décembre 2024, dit le Fonds monétaire international dans un communiqué citant Idod Gemayel, chef de la mission entamée au Sénégal le 25 avril et achevée vendredi. Le père jésuite Adrien Lentiampa Shenge nous introduit à la méditation avec les lectures du sixième dimanche du temps de Pâques de l'année liturgique B.
Chers frères et sœurs, depuis le début de ce temps de Pâques, nous méditons en première lecture le livre des Actes des Apôtres, qui nous relate les effets de la résurrection du Christ dans les premières communautés chrétiennes. Oui, le temps de Pâques, c'est le temps de l'Église, car l'Église naît et vit de ces mystères de Pâques. Le passage des Actes des Apôtres que nous lisons aujourd'hui nous présente une Église humble et ouverte au monde, une Église soucieuse de tourner les regards de tout homme vers le Christ, l'unique Sauveur. En effet, nous voyons Pierre refuser que Corneille, venu du monde païen, puisse se prosterner devant lui. Je ne suis qu'un homme, moi aussi. Ce geste de Pierre nous rappelle que seul le Christ ressuscité est Seigneur et Sauveur, digne d'être adoré. Oui, Pâques, c'est l'invitation à changer notre regard sur les autres et sur le monde, car nous les regardons du regard même de Dieu. Pierre dira à cet effet: quelqu'un peut-il refuser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu l'Esprit Saint tout comme nous? Oui, Pâques nous révèle que quelles que soient nos différences, nous sommes tous frères, car nous bénéficions tous de l'Esprit et de la grâce découlant du sang versé sur la croix. Le même Pierre proclame l'universalité du don de l'Esprit que le Seigneur donne en profusion à tout celui qui s'attache à lui. Oui, le temps de Pâques, c'est le temps qui nous rappelle la nécessité de nous attacher au Christ en laissant l'Esprit du Père trouver en nous sa demeure. C'est là l'enseignement de l'Évangile de ces jours. Demeurez dans mon amour. Oui, être chrétien, c'est demeurer dans l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Si donc Pâques est le temps de l'Église, et que par ailleurs, par la Pâque, Dieu manifeste son amour infini pour nous par la mort et la résurrection de son Fils, cela signifie que l'Église est le lieu où se manifeste l'amour de Dieu à travers l'amour mutuel. Ainsi, faire Église, c'est être peuple de l'amour, car l'Église du Christ rassemble ceux qui vivent du commandement du Seigneur. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si donc nous sommes unis au Christ, si nous demeurons en lui, nous devons vivre de l'amour qui vient de lui et qui doit se manifester dans toutes nos paroles et dans tous nos actes. Le Christ lui-même le dit, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. » Et l'apôtre Jean nous le rappelle dans la deuxième lecture de ces jours. « Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » En ces dimanches, engageons-nous donc à vivre de l'amour de Dieu, dans l'humilité et l'ouverture aux autres, en sachant qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Car, comme nous l'enseigne Saint Ignace dans ses exercices spirituels, l'amour doit se mettre dans les actes plus que dans les paroles. Demandons à Dieu notre Père de nous donner, de manifester l'œuvre de la résurrection du Christ par une vie toute marquée par l'amour de nos frères et sœurs. Amen.
Invité du jour.
Les Tchadiens sont appelés aux urnes lundi 6 mai pour élire leur président parmi les 10 candidats en lice. La campagne commencée le 14 avril a pris fin samedi 4 mai. Que peut-on attendre des résultats de ces élections? Réponse avec le professeur Évariste Ngarlem Toldé, chercheur à l'Université de N'Djamena et analyste politique. Il revient sur le contexte du déroulement des campagnes menées par les différents candidats.
Tout s'est passé plus ou moins dans le calme, sauf qu'à la dernière minute, on a constaté que le premier ministre avait annulé son voyage dans la partie septentrionale du Tchad parce qu'il semblerait qu'il aurait été menacé de s'y rendre. La raison que lui-même il avait évoquée, c'était le manque d'avions. Mais on avait compris que c'était les menaces proférées par un haut responsable de cette région qu'il avait dissuadé de faire le déplacement sur Faya. Aussi, on a constaté que parmi les listes des candidats qui étaient retenus et qui ont participé à cette campagne, ceux qui en étaient exclus, la plupart étaient de la partie septentrionale du Tchad. Donc, le parti au pouvoir, la coalition Tchad Uni, ne voulait pas donc trouver des concurrents dans cette partie du pays. Donc, d'une manière générale, en dehors de ça, on a aussi vu des attaques verbales des candidats. Les concurrents se sont jetés des piques, notamment le président de transition envers ses anciens premiers ministres et puis l'actuel et l'ancien premier ministre aussi ont rétorqué au président. Mais d'une manière générale, la campagne s'est bien déroulée, mis à part quelques anomalies. Par exemple, les membres du GCAP qui battaient campagne pour le boycott ont été interceptés et puis molestés. Un bureau d'un candidat rejeté a été également dévasté. Bon, voilà, on a assisté à ce genre d'événements, mais qui sont quand même de moindre importance.
Tous les 10 candidats retenus ont-ils mené leur campagne de façon équitable?
Mais ce n'est pas possible. Vous savez, dès l'instant où le président et le premier ministre n'ont pas démissionné de leurs fonctions, ils ont gardé tous les avantages. Donc, les deux candidats étaient en tête de liste. Enfin, c'est eux qui ont pu mobiliser les foules parce qu'ils en avaient les moyens. Ce qui a fait qu'il n'y avait pas d'équité lors de cette campagne. Le président ayant été soutenu par une large coalition de partis politiques et d'associations, le premier ministre aussi ayant un soutien populaire et ayant aussi des moyens. Donc voilà, les deux ont été les têtes d'affiche de cette campagne. En troisième place, on pouvait citer peut-être l'ancien Premier ministre Païmi Padaké Albert, mais il faut dire que les autres candidats pour 21 jours et 23 provinces, il y en a qui sont les restés à la traîne. Beaucoup n'ont pas pu battre campagne comme il se doit parce qu'ils n'avaient pas les mêmes moyens que le président et le Premier ministre.
D'après vous, les projets des sociétés présentés par ces 10 candidats répondent-ils aux besoins des Tchadiens?
Mais reste à savoir s'il y avait vraiment des projets de société. Les candidats se sont beaucoup appesantis sur un certain nombre de questions, mais les véritables problèmes auxquels les Tchadiens s'attendaient à avoir des solutions, notamment la question nord-sud, l'antagonisme chrétien-musulman, le conflit agriculteur-éleveur. Vous voyez ces questions clivantes, les gens ont pratiquement effleuré. Ils n'ont pas proposé des solutions. Et même s'ils ont fait des propositions, ils n'ont pas montré comment ils peuvent rendre ce là effectif. La question de l'armée, comment faire pour que l'armée devienne une armée nationale et une armée moderne? Cette question aussi n'a pas été évoquée ou alors il n'y a pas de véritable proposition allant dans ce sens. Et puis la neutralité de l'administration, toutes ces questions-là n'ont pas trouvé une bonne place dans les interventions, dans les discours des différents candidats. Parler de projet de société des différents candidats, il faut dire que c'était vraiment de l'amalgame. Personne n'a pu sortir du lot. On croit avoir particulièrement les mêmes projets pour tout le monde parce que les gens reviennent toujours sur les mêmes questions, sur les mêmes problèmes, alors que les véritables problèmes qui est le quotidien des Tchadiens, comment faire pour que le Tchadien mange à sa faim, comment faire pour que la sécurité des Tchadiens soit assurée, toutes ces questions-là, il faut le souligner, n'ont vraiment pas trouvé de solution dans les interventions des différents candidats.
Ces élections seront-elles une simple formalité pour confirmer l'actuel président Mahamat qui dirige le Tchad depuis la mort de son père?
Pour certains, c'est une formalité. Il semble que le président sera reconduit facilement. Mais il faut reconnaître aussi qu'il y a une volonté de changement qui s'est affichée avec les meetings populaires qu'il y a eu, avec les foules qui se sont amassées derrière le Premier ministre. Donc il y a une réelle volonté de changement avec cette campagne et le Premier ministre a su drainer des foules et c'est cette volonté de changement que l'on voit de plus en plus. Mais aussi, on craint que le président puisse également se faire élire dès le premier tour par l'Agence nationale de gestion des élections, une agence qui gère donc le processus et à la tête de laquelle se trouve donc un cacique du pouvoir. C'est les gens craignent que d'un côté comme de l'autre, que ce soit le président ou son premier ministre, que les deux se déclarent tous les deux vainqueurs de cette élection. Donc, volonté de changement pour les uns, volonté de se maintenir pour les autres. Et la tendance est un peu difficile à trancher, mais ça serait difficile que quelqu'un puisse gagner dès le premier tour.
Évariste Ngarlem Toldé, enseignant, chercheur à l'université de N'Djamena et analyste politique, il était interrogé par Jacques Ngol.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Chers amis, c'est la fin de ce programme que Marie-Josée Moindo-Boisboileau a eu le plaisir de vous présenter. Au revoir et à très bientôt à l'écoute de nos prochaines éditions. Laudetur Jésus Christus.
Kota mutanda,
Vika kota mutanda, Vika vigi mamoto kuletu
mutami. Vika kota mutanda,
Vika kota mutanda, Vika
vigi
mamoto kuletu mutami.
Ame ye ye ye.